France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Comment fait-on l'histoire ? C'est notre sujet de cette semaine et ce matin, quand et comment est apparue l'idée d'une science de l'histoire ? Nous aurions pu bien sûr remonter à l'Antiquité, à Hérodote, à Thucydide, mais à l'époque moderne est apparue vers la fin du XVIIIe siècle en Europe, dans le monde allemand plus particulièrement, une réflexion inédite sur l'appréhension de l'histoire. Non sans débat, est née peu à peu l'idée d'une science de l'histoire. Beaucoup de questions ont été agitées. Qu'est-ce qui engendre quoi dans l'histoire ? Y aurait-il des forces causales tout à fait premières, plus importantes que d'autres ? Tout s'inscrit-il dans du continu ou bien y a-t-il de vraies ruptures historiques ? Et puis, faut-il penser une histoire universelle ou bien à chaque peuple son histoire spécifique ? Ces questions ont passionné les philosophes, les historiens et aussi des spécialistes du droit, car un des enjeux est c'est de savoir si le droit est un terrain d'accès privilégié à ce qui est le plus important dans l'évolution d'une société. Nous avons donc décidé de partir de là, de ce moment, dans cette série. Après quoi, nous nous dirigerons vers de grandes questions historiographiques contemporaines. Demain, nous traiterons d'un débat allemand plus tardif sur ce point. La tâche des historiens est-elle de comprendre ou d'expliquer ? Mercredi, nous entendrons en studio avec nous l'historien italien Carlo Ginzburg, cofondateur du courant dit de la micro-histoire. Et jeudi, nous évoquerons une lettre retrouvée enterrée sous un crématoire d'Auschwitz-Birkenau, cas singulier qui révèle d'importants enjeux à propos de comment on fait l'histoire. Mais ce matin, donc, arrêtons-nous sur le climat de la fin du siècle des Lumières, porteur de nouvelles interrogations sur l'histoire. Bonjour Élodie Georgievic.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie du droit à l'université Paris Panthéon Assas. Votre thèse de philosophie portait sur l'œuvre du philosophe allemand Hegel. Hegel, philosophe majeur, qu'il est aussi très intéressant, nous le ferons ce matin, de le situer dans les débats à propos de l'histoire en Allemagne à son époque. Et bonjour Olivier Jouan-Jean.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris Panthéon Assas et un des meilleurs connaisseurs dans notre pays des grandes discussions à propos de l'histoire qui ont agité philosophes et juristes en Allemagne à partir de la fin du XVIIIe siècle. Vous avez notamment publié aux presses universitaires de France une histoire de la pensée juridique en Allemagne 1800-1918. Alors commençons, si vous le voulez bien, par la mention de deux publications de la fin du XVIIIe siècle qui semblent se répondre. En 1765, Voltaire en France fait paraître un ouvrage dont le titre est « La philosophie de l'histoire ». 9 ans plus tard, en 1774, le penseur allemand Herder réplique par un essai intitulé « Une autre philosophie de l'histoire ». Olivier Jouan-Jean, est-ce que avant l'idée d'une science de l'histoire, c'est la philosophie de l'histoire qui a fait son apparition?
Oh, c'est à peu près contemporain. La philosophie de l'histoire de Feu l'abbé Bazin, qui était Voltaire, qui a écrit une biographie de Feu l'abbé.
Oui, pseudonyme, ouais.
Ça, c'est, bon, c'est l'ironie de Voltaire. Mais cette philosophie de l'histoire, pour moi, elle n'a pas grand-chose de philosophique, puisque, comme l'écrit Voltaire, il s'agit d'éterrer quelques moments sous les ruines des siècles. Au fond, ça rompt pas vraiment, à mon avis, avec la tradition qui remonte jusqu'à, peut-être, Hérodote, historien, ça veut dire enquête. L'histoire, ça veut dire des récits, des chroniques, pendant longtemps. On raconte des événements, on raconte une histoire, l'histoire de certains événements. Simplement, ce qu'il y a de plus philosophique chez Voltaire, c'est qu'on essaye d'appréhender une sorte d'histoire de l'humanité, comme dans le deuxième livre de Herder, d'ailleurs. Mm-hmm. Une histoire universelle. Bon, donc, la philosophie de l'histoire, ça commence avant la science de l'histoire, ou les débuts de l'expression science historique, mais ça se fait dans la décennie qui suit, à peu près. Et ça se produit en Allemagne. Alors, je veux dire quelques mots d'une école, la première école de sciences historiques, qui est l'école de Göttingen, en Allemagne, où tous les principaux historiens de l'époque sont réunis. Pour les juristes, l'important, c'est Gustave Hugo, qui a écrit un grand traité de droit romain, qui renouvelle toute l'histoire du droit romain. Mais cette, cette école de Göttingen
oui.
était devenue, je cite Wilhelm Dilthey, le philosophe de la fin
dont nous
du
parlerons demain beaucoup.
Voilà, en 19e, au 20e siècle, en 1911. Il dit que cette université est devenue le siège principal des études historiques en Allemagne. Elle a reçu les éloges d'un grand historien de l'époque, Droysen. Bon. En un mot, l'école de Göttingen, oui, s'efforce de scientificiser, si je peux me permettre ce terme, et de transformer le récit historique des événements en une science explicative par la recherche d'enchaînements par les causes et les effets de ces événements. Donc, il faut parler d'une histoire externe, puisque la cause est extérieure à son effet. Voilà. C'est une science non philosophique de l'histoire. Et notamment pour Hugo, c'est une science non philosophique de l'histoire du droit. Il y aura toujours de grands malentendus entre Gustave Hugo et Friedrich Carl von Savigny, qui est le véritable fondateur de l'école historique allemande au tout début du 19e siècle, dans les premières moitiés du 19e siècle, mais à partir de 1800-1801. Donc je vais conclure ce premier point introductif. Oui, ce qui se produit à partir de la fin du 18e et au tout début du 19e, c'est une philosophisation, si je peux me permettre aussi ce mot, de l'histoire et de notre compréhension de l'histoire, et puis une tentative de scientificisation, mais ça reste assez largement dans l'orbite des Lumières.
Alors quand même, parce que là, il faut qu'on mette un petit peu d'ordre dans tout ce que vous avez dit, qui est très dense. En plus, il y en a quelque chose qui nous aide, c'est les chiffres ronds, car ils sont tous nés, Voltaire, Herder, Hugo, ils ont des dates de naissance avec le chiffre 4, donc ça simplifie la donne. Voltaire est né en 1694. Herder qui lui répond, alors qu'il a 30 ans, à 50 ans de moins que Voltaire. Donc c'est une autre génération, c'est un jeune romantique au milieu du mouvement pré-romantique allemand avec Goethe, du Sturm und Drang, qui est donc une autre génération qui a envie, face à Voltaire, qui est un vieil intellectuel des Lumières, de dire que tout n'est pas atrocité et chose terrible dans l'histoire sans sens unique. C'est ça que dit Voltaire. Il y a une grandeur des nations. La nation et même le folk, le peuple, est porteur, chaque nation est porteur d'une grandeur qui dessine quelque chose dans l'histoire. Alors, commençons quand même par là. Nous parlons après des historiens de Göttingen, etc. C'est ce débat-là, il est important, Élodie Georgievic, parce qu'il va se répéter chez les gens qui veulent faire la science de l'histoire. Il y aura toujours ceux pour dire, comme Hegel, ce qui avance, c'est quelque chose comme la rationalité universelle dans l'histoire, contre des gens comme Savigny, dont nous venons d'évoquer le nom, qui diront, non, ce qui avance, c'est pour chaque peuple, cette chose, le folk, la communauté spirituelle, langagière, puisque c'est aussi une langue, etc. Ça, c'est un débat très important. Oui. Est-ce qu'on peut dire, Élodie Georgievic, qu'il est posé pas Herder, assez largement, ce jeune homme à la toute fin du 18e.
Ah, alors, c'est une question assez massive. Si, je suis désolée, je ne veux absolument pas ajouter la prolifération des concepts, mais peut-être... alors, je vais ajouter un 4 à la série des 4 dont vous parliez, oui. Puisque vous le savez, je pense que c'est dans l'idée là, de tous, en 1784, paraît l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique.
Il a donc 20 ans, ce texte apparaît... alors, en plus, il est né en 1724.
Voilà, non, mais décidément, il y a quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. Mais, alors,
donc, il est plus âgé que Herder.
Oui, toutefois, il fait un compte-rendu quand... peut-être peut-on partir d'une distinction alors qui peut sembler peut-être sommaire, mais qui peut être un bon point de départ, de partir de peut-être de la distinction science historique, philosophie, histoire philosophique, celle que prétend faire Kant, et philosophie de l'histoire qui, à mon avis, n'existe pas chez Kant, mais qui est là le pas opéré par Hegel et qui se distingue en effet de l'idée de science historique à proprement parler. Je contourne un petit peu votre question sur Herder pour alors effectivement, j'approuve tout à fait le pas de côté là que vous pointiez s'agissant de Herder par rapport à l'idée d'une alors de la qualification voltairienne de l'histoire et également par rapport à cette idée que l'histoire ne serait qu'un chaos, qu'on ne peut même pas en faire un récit, que rien n'est possible s'agissant d'elle. Toutefois, à cet égard, et c'est le reproche que Kant fera à Herder, effectivement, Herder se tient dans l'idée d'une science ou dans l'idée qu'on pourrait penser l'histoire de manière qui pourrait être causale.
Mais en fait, personne là ne fait de science. On est encore dans ce moment.
Exactement.
Herder, c'est ce qu'a dit Olivier Jean-Jean, ce sont les historiens de Göttingen, etc. Là, on est dans un moment philosophique où tout le monde cherche un sens.
Et, avec et donc, ce point commun de l'universalité, voilà. C'est-à-dire de faire une histoire universelle.
Herder est plus jeune que Kant, mais Kant, 20 ans plus âgé, lui répond quoi exactement sur
et
le
c'est
sens
ça qui
de l'histoire.
Est passionnant et qui, je pense, enclenche le débat. Kant renvoie dos à dos finalement les différentes, les trois conceptions qu'on pourrait poser. Alors d'une histoire comme étant un processus de régression qui serait une perte, l'idée de qui serait le contraire du progrès, l'idée de l'histoire comme cette fois, cette première il l'appelle terroriste, la deuxième qu'il appelle eudémoniste, l'idée de l'histoire comme tendant vers un progrès, et enfin la conception abderitiste qui serait, alors ce serait plutôt Mendelssohn, l'idée d'une oscillation, voilà, une histoire qui tendrait ni vers le bien ni vers le mal, mais qui serait oscillante et où finalement il n'y a pas vraiment de tendance ni vers le bien ni vers le mal qui se dessine. Kant montre que la difficulté avec ces différents points de vue, c'est qu'elles ont tendance précisément à croire qu'il pourrait y avoir une connaissance ou des jugements déterminants, là, pour le dire en termes kantiens, s'agissant de ce qui s'est passé et du tout de ce qui s'est passé. En regard, Kant oppose l'idée que s'agissant de l'histoire, on peut émettre l'idée qu'il y a un progrès moral, et là il faut donner l'événement qui travaille toutes ces conceptions, qui est évidemment la Révolution française, qui témoigne, plutôt la réception enthousiaste des spectateurs qui témoigne de cet événement qui est un moment de l'avènement de la liberté dans le monde.
Même si ça n'a pas encore eu lieu.
En 84, là oui, je suis dans le conflit des facultés. Vous avez raison.
Son idée, l'histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Est-ce que vous me permettez de dire juste cette phrase-là ? Je ne sais pas si vous l'accepterez, mais bon, je me propose de le dire ainsi pour nos auditeurs. Herder a dit comme jeune romantique que les nations, les peuples ont des destins singuliers qui traversent leur histoire. Kant ne s'intéresse pas à ça. Il pense qu'il y a peut-être un sens rationnel, global et universel de l'histoire, une raison. C'est une opposition très importante, mais en tout cas, en aucun cas, ça n'aide à faire de la science historique.
Exactement. On est d'accord. Et c'est une hypothèse rationnelle.
Alors on va l'écouter.
Chez Kant.
C'est une hypothèse, c'est simplement et pas une méthode scientifique, c'est ça ?
C'est ça. C'est-à-dire, peut-être, c'est la distinction entre jugement déterminant et jugement réfléchissant qui se joue ici.
On va écouter les deux.
Une tentative philosophique pour traiter l'histoire universelle en fonction du plan de la nature, qui vise à une unification politique totale dans l'espèce humaine, doit être envisagée comme possible, et même comme avantageuse pour ce dessein de la nature. C'est un projet, à vrai dire, étrange et en apparence extravagant que de vouloir composer une histoire d'après l'idée de la marche que le monde devrait suivre s'il était adapté à des buts raisonnables certains. Il semble qu'avec une telle intention, on ne puisse aboutir qu'à un roman. Cependant, si on peut admettre que la nature même, dans le jeu de la liberté humaine, n'agit pas sans plan ni dessein final, cette idée pourrait bien devenir utile. Et bien que nous ayons une vue trop courte pour pénétrer dans le mécanisme secret de son organisation, cette idée pourrait nous servir de fil conducteur pour nous représenter ce qui ne serait sans cela qu'un agrégat des actions humaines comme formant, du moins en gros, un système. Croire que j'ai voulu, avec cette idée d'une histoire du monde qui possède dans une certaine mesure un fil conducteur a priori, évincer l'étude de l'histoire proprement dite, comprise de façon empirique, ce serait se méprendre sur mon intention. J'ai simplement été guidé par la pensée de ce qu'une tête philosophique, qui par ailleurs devrait être très averti des problèmes historiques, pourrait tenter de faire en se plaçant d'un autre point de vue.
Se placer d'un autre point de vue, dit Kant dans ce texte, pour essayer de saisir comme une idée de rationalité qui traverserait l'histoire. Olivier Jouangeant, c'est un enjeu qui, à ce moment-là, en 1784, n'a rien à voir avec les questions que sont en train de se poser les jeunes historiens. Celui dont vous parliez, Gustave Hugo, au moment de ce texte, il a 20 ans. Il commence ses études d'histoire, il veut faire de la science. Pour l'instant, en 1784, on a ce débat de Kant avec Herder. On n'a pas encore de pensée de la science historique, n'est-ce pas ?
Non, pas encore. Mais moi, ce que j'ai souligné dans le texte Kant, c'est l'étude de l'histoire proprement dite, comprise de façon empirique. Et ça, c'est l'étude de l'histoire telle que vont la pratiquer les historiens de cette école de Göttingen, d'un point de vue empirique. Et c'est pour ça qu'ils cherchent des causes et des effets, et un enchaînement. Mais il n'y a pas de plan général d'une histoire universelle, ça c'est complètement absent de cela. Et c'est ça qu'on peut appeler, il faut appeler histoire externe. C'est Savigny, donc l'école historique, qui vont les qualifier de cette manière.
Donc ces gens-là veulent-ils rompre avec les grands propos sur l'histoire, que ce soit celle sur le peuple ou ce soit le propos sur l'idée de la raison qui se dessinerait dans l'histoire, l'idée kantienne?
Non, ça je ne crois pas du tout à ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rompent avec une histoire purement événementielle. Ils rompent avec cette histoire qui, comme l'écrira Savigny plus tard en 1815, ne serait qu'une collection d'exemples politiques et moraux. Donc, l'histoire édifiante, si vous voulez, on raconte l'histoire pour édifier moralement et politiquement les hommes. Ça, c'est...
Mais quand ça les intéresse, l'idée d'une régulation rationnelle d'un point de vue qui n'est pas celui de la science, qui est une sorte de point de vue, j'ai envie de dire métaphysique, peut-être que j'exagère. Lui qui est un critique Kant de l'abus de métaphysique, il pense quand même, Élodie Georgievic, qu'il y a un point de vue, peut-être le point de vue divin, pour lequel il y a de la raison dans l'histoire, c'est ça ?
Alors, là, chez Kant, c'est le plan du « comme si ». On adopte un fil conducteur, on fait comme si il y avait effectivement un dessin caché de la nature qui se servait de la violence entre les hommes pour réaliser quelque chose d'autre, mais c'est comme si manifeste bien que on n'est pas dans une thèse qui relève d'une affirmation qui pourrait ressortir de la connaissance, mais simplement effectivement voilà, on adopte un point de vue qui, alors, dit Kant, a un double intérêt, à la fois théorique, ça permet de donner du sens aussi à l'enchaînement des faits que l'on raconte, et évidemment qu'il y a un intérêt pratique, puisque ça aussi, ça nous permet d'espérer.
Et lui, il pense, quand il voit 5 ans après ce texte, la Révolution française, qui ne va pas durer qu'une année, donc quelques années après, il observe, il voit le sang qui coule, il voit les renversements, les différents moments de la Révolution, mais il est conforté, Emmanuel Kant, dans l'idée que malgré cet déferlement de violence, il y a quelque chose qui est un surcroît de raison apporté par cet événement dans le monde entier. C'est ce qu'il pense ?
Alors, c'est une question âprement discutée. Moi, je crois que oui, même si on pourrait dire que, voilà, Kant, c'est la révolution sans les journées révolutionnaires. Je crois que c'est à peu près ça. Mais ce qui reste, et y compris dans ces textes de la maturité, me semble-t-il, hein, c'est malgré tout l'idée que, quoi qu'il arrive, et même s'il faut déplorer les moyens par lesquels c'est advenu lors de la Révolution, c'est-à-dire par les moyens de la violence, il n'en reste pas moins que la Révolution française est un moment capital de l'avènement de la liberté dans le monde. Alors, simplement, je crois que Kant ne parlerait pas de raison, vous voyez, voilà, c'est vraiment réalisation de la liberté dans la nature, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes, c'est comme ça qu'il le dirait.
C'est Hegel qui parlera de raison.
Exactement, et là, il y a un pas supplémentaire qui est accompli. Je voudrais juste pointer relativement au texte que vous avez, dont la lecture a été donnée, quelque chose qui me paraît très important aussi relativement à ce que disait Olivier Jean-Jean, c'est tout de même cette idée, effectivement, d'un autre point de vue, et Kant ne nie absolument pas qu'on ait besoin de l'étude de l'histoire empirique. C'est-à-dire, le philosophe lui-même, même s'il adopte ce point de vue, donc une histoire philosophique, disons, ça n'invalide absolument pas l'histoire empirique. Il faut que le philosophe qui prétend adopter ce point de vue se tienne au courant et prenne connaissance de tous ces travaux érudits qui aussi permettent de déceler ce sens. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Ce sont deux points de vue différents, adoptés sur ce qui a été.
Pendant ce temps... Et je dis que c'est un temps de débat car Herder n'a pas dit son dernier mot. Il est en train de produire 3 volumes pour répondre à Kant qui a été son maître. Il est un disciple de Kant. Il est en train de produire encore une énorme réponse rédigée entre 1784 et 1791 pour faire valoir que c'est l'histoire des peuples et de leur singularité. C'est ça qui donne le ton dans l'histoire. Pendant que se déroule ce débat, que se passe-t-il à Göttingen, mais aussi à Marbourg? Qui est ce monsieur, Friedrich Karl von Savigny, cet historien spécialiste du droit, qui est né en 1779, il a 9 ans de moins que Hegel, il a donc été tout petit enfant pendant la Révolution française, très jeune homme, et lui, quel est son sujet, son problème, qu'est-ce qu'il veut faire, Olivier Jouangean?
Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faut revenir juste un petit instant sur Kant, parce que ce sera très important pour la pensée de l'histoire après lui, à savoir que dans l'architectonique de la raison pure, dans la critique, à la fin de la critique de la raison pure, il explique très précisément que cette histoire empirique, elle a sûrement sa valeur, mais elle ne peut pas être une science, puisqu'elle est cognitio extatis, c'est-à-dire une connaissance à partir de données empiriques, précisément, et non pas cognitio ex principis, c'est-à-dire pas connaissance à partir des principes. Or, une véritable connaissance scientifique, il y a une connaissance de l'histoire, mais elle n'est pas scientifique, et la connaissance scientifique, elle, doit faire système, à partir de principes. Bon, donc... ça sera précis. Et à partir de là, on comprend le problème qui se pose à la fin du 18e et au début du 19e avec Savigny. C'est cette histoire externe. Et comment puis-je construire un système ou des systèmes de l'histoire?
Explicatif, c'est ça?
Non, compréhensif.
Compréhensif. Déjà, le débat est là, parce que nous, on va parler demain. Il sera très important à la fin du 19e.
Il n'utilise pas compréhensif, mais c'est une question d'herméneutique, c'est-à-dire d'art de l'interprétation. Mais il faut partir pour ça d'une histoire interne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une histoire interne? C'est-à-dire que l'historien, en tout cas, ça c'est chez Savigny et ses disciples, un historien doit comprendre, non pas un enchaînement d'événements, mais quelle est la conscience populaire, la conscience du peuple qui permet de comprendre l'évolution, une évolution sur très long terme, puisque l'histoire de Savigny, ça va du droit romain jusqu'au droit de son époque en Allemagne. Donc, il faut suivre le fil directeur d'une conscience pour comprendre cette histoire interne. Parce que là, on est à l'intérieur de la conscience d'un peuple. Hein, la phrase la plus célèbre et la plus importante de Savigny pour expliquer son fondement, c'est « Le siège véritable du droit réside dans la conscience d'un peuple ». Bon. Donc c'est dans la
conscience. Donc si je puis me permettre, oui, j'entends bien qu'ils veulent faire de la science et ne pas mêler des considérations, disons, idéologiques. Mais bon, qu'on le veuille ou non, Savigny, par son itinéraire, va consacrer la vision de Herder. C'est la singularité d'un peuple et son destin qui s'observe dans l'histoire, non? Pour lui. Plus que l'idée d'une histoire universelle dans laquelle il y aurait des éléments de progrès de la raison, des choses comme ça. Vous êtes d'accord?
Oui et non. Parce que même chez Herder, il n'y a pas... totale absence de dimension de l'universel. Je renvoie à la préface d'Alain Renaud à sa traduction chez Garnier-Flammarion. que je trouve très pertinente. Oui, je ne me souviens plus de la question exacte.
Bon, alors du coup, je vais l'étoffer si ça ne vous dérange pas.
Je vous en prie.
Il me semble que Savigny a quand même eu des débats vifs avec des Kantiens, justement. Des gens qu'on ne connaît plus trop aujourd'hui, Thibaut de Heidelberg, un certain Rehberg, des gens qui voudraient faire valoir la vision kantienne, il y a de la raison, qui pourraient travailler l'histoire et donner à celle-ci quelque chose d'universel. En 1814, va avoir lieu un débat très important, qui est celui de savoir si les peuples allemands ont quelque chose de singulier, qui leur vient notamment du droit romain, ou bien si tout cela n'est pas si important, et la raison de l'histoire, d'ailleurs le jeune Hegel dira que ça ne pose aucun problème, si la raison ne viendrait pas plutôt du code napoléonien, c'est-à-dire, puisque en 1806, quand le Saint-Empire romain germanique chute par l'invasion de Napoléon, Hegel est à Iéna, et il trouve qu'il est du côté de Napoléon, il n'est pas du côté allemand, si je puis dire. Il trouve que le sens de l'histoire, c'est quand même ça. Donc là, on sent quand même que Savigny, il n'est pas du côté de Kant et Hegel sur ce sujet. Il pense qu'il y a une naissance des peuples, non ?
Bon, je vais y venir. Mais effectivement, il n'est pas du côté de Kant, et alors encore moins, je dirais, du côté de Hegel, puisqu'ils se sont détestés mutuellement profondément.
Bon, c'est plus clair, là, oui.
Ah oui, ça, ouais. Ils se sont détestés. Ouais. Savigny s'est réjoui à la mort de Hegel, quand même. Ouais. Donc, vous voyez, c'était assez dur. Le problème fondamental pour Savigny, et c'est comment penser un système, le système dans l'histoire. Et là, il a recours à la métaphore organiciste, au fond. Parce que l'organisme, quand on considère un peu ce que c'est un système, mais c'est un système en évolution. Et au fond, la conscience du peuple, ça peut se traduire par organisme populaire, mais organisme au sens spirituel, hein, pas biologique.
Oui.
Bon. Et ça, à mon avis, cette histoire interne comme histoire d'une conscience du peuple, et puis c'est son disciple Pourtant qui dira plus tard « esprit populaire », mais Pourtant avait été l'élève de Hegel hein, au gymnasium de Nuremberg. C'est ça qui permet de systématiser, de trouver le point d'appui d'un système, d'une évolution. Car voilà ce que dit Savigny, un peuple c'est un organisme qui est un tout qui se développe, qui évolue. Mais c'est un tout. Et donc ça, c'est le programme précis de la science historique, bon, du droit, mais on va laisser le droit de côté, mais de la science historique de Savigny. C'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre en même temps ce qu'il appelle l'élément systématique et l'élément historique. La véritable histoire, l'histoire au sens authentique, c'est ce qu'il dit toujours à Hugo, c'est de réussir à combiner ce qui est empiriquement historique, en quelque sorte, avec ce système de la conscience ou de l'esprit d'un peuple. Mais ça ne peut se produire que dans un milieu intellectuel global, qui est celui de l'idéalisme post-kantien, et notamment Schelling joue un rôle, à mon avis, très important là-dedans, plus que Herder, en vérité, pour moi. Et puis aussi du romantisme. Savigny est aussi allé à Iéna, où il a rencontré Schelling, où il a rencontré le frère Schlegel, donc les premiers romantiques allemands. Et c'est ça qui fait... ce milieu intellectuel global, c'est un renouvellement profond de la philosophie de la conscience, et d'une conscience qui est historisée. Schelling, à la fin de sa contribution à l'histoire moderne de la philosophie, écrit « Lorsque j'ai pensé la conscience de soi, ma pensée est devenue historique. » Et je pense qu'on pourrait dire ça pour Savigny également.
On pourrait dire ça pour Hegel. Le problème, c'est qu'ils sont en désaccord sur autre
alors,
chose.
Alors voilà, oui, je voulais effectivement pour reprendre votre...
Ils ne sont pas du tout d'accord sur quoi
absolument.
Exactement. Qu'est-ce que Hegel... Voilà, allez-y,
oui,
je vous laisse expliquer, c'est votre spécialité.
Effectivement, votre formule, comme vous le disiez, Savigny est contre Kant, sans doute contre Hegel aussi. Oui. Et fondamentalement... j'allais dire les contre la liberté, ça serait outré de le dire comme ça, mais enfin, je pense que là, on est obligé de revenir à ce moment quand même fondateur pour cette appréhension de l'histoire qui est celle de Kant et de Hegel, même si vous aviez raison, hein, évidemment, l'idée d'une histoire universelle, c'est avant la Révolution française, mais la Révolution française est un moment capital aussi, et ça, il se trouve que Savigny est aussi contre la Révolution française, et je pense que ça joue... voilà. Alors, attention, hein, je ne veux pas... Le débat Hegel-Savigny ne s'épuise évidemment pas dans des considérations politiques. Le fait est qu'elle joue quand même pas mal, mais que, disons, ces oppositions politiques se manifestent aussi dans leurs divergences théoriques assez grandes. Alors, sur quoi s'oppose-t-il très exactement? Je vous remercie de votre question, parce que, justement, je pense qu'une lecture hâtive, qui n'est pas du tout celle, évidemment, d'Olivier Jean-Jean, aurait tendance à dire que, finalement, il y aurait une opposition entre Hegel et Savigny s'agissant du droit, parce que, en gros, l'un prendrait très au sérieux l'histoire et l'autre non. Alors, Savigny, fondateur de la science historique du droit, prendrait très au sérieux l'histoire et l'histoire d'un peuple pour penser les déterminations juridiques, alors que Hegel, en gros, serait... d'ailleurs, hein, Savigny range Hegel dans l'école du droit naturel, donc dans les écoles qu'il appelle anhistoriques, celles qui ne prennent pas au sérieux l'histoire pour penser le droit. Donc, le débat est moins là-dessus que sur la manière dont ils conçoivent l'histoire, et là, je pense qu'on est au cœur de la chose, dont ils conçoivent aussi la rationalité, puisque l'articulation, disons, entre histoire et rationalité, et il faut dire le grand mot qui est en jeu, parce que c'est le mot capital pour la philosophie de l'histoire, le rapport qu'ils y voient aussi à la liberté. C'est-à-dire que pour Hegel, alors ça c'est son point commun avec Kant,
oui.
Et avec la... disons, l'histoire des Lumières, c'est que le maître mot, c'est l'émancipation quand même pour tous ces penseurs. Pour
et donc Kant, l'histoire pour Hegel, universelle dessine des lignes, c'est ça qu'il appelle la rationalité Hegel, le oui. travail de la raison, oui. qui sont des lignes qui vont vers l'émancipation et la liberté pour tout le monde, même s'il y a des moments négatifs, pour parler de la dialectique.
Et ouais. certains extrêmement violents, voilà. et des contradictions non résolues.
Et d'après vous, après évidemment j'interrogerai Olivier Jean-Jean, vous pensez que Savigny n'a pas du tout ça en tête? Il s'intéresse au destin historique des peuples, du folk, de leur singularité, et ce n'est pas la question de la liberté qui l'intéresse?
Alors là, Olivier Jean-Jean dirait.
J'ai peur.
Je ne crois pas. Non. C'est que là, non. Je crois que ça n'est pas le problème de Savigny. Le problème de Savigny est effectivement de donner des déterminations scientifiques du droit selon une détermination de la science et de la raison qui sont là très très différentes évidemment de celles de Hegel. Je vais peut-être excusez-moi tourner la question. Je crois que ce qui intéresse Hegel dans l'histoire et dans la philosophie de l'histoire, c'est comme toujours le présent, parce que l'objet de la philosophie, c'est le présent. Ce qui intéresse Savigny, c'est aussi de donner un droit et une législation aujourd'hui pour l'Allemagne, mais avec l'idée selon laquelle, malgré tout, il y aurait une espèce de valeur intrinsèque de ce qui a été, ce qui est au plus haut point opposé à l'idée hegelienne, je crois.
Donc, il y a une nécessité du passé dans le présent, c'est quelque chose de nécessaire du passé qui se reconduit dans le présent.
Pour Hegel, vous voulez dire ?
Non, je dirais là cette fois-ci pour Savigny.
C'est ça.
Un arrachement malgré tout, parce que chez Hegel, on sort du négatif, on réinvente des choses vers un futur de liberté. Est-ce que je ne simplifie pas trop ?
Non, c'est vraiment l'idée.
Alors Olivier Jean-Jean, qu'en pensez-vous de cette manière de dire la différence entre Hegel et Savigny, qui se détestaient ?
Qui se déteste.
Vraiment, oui.
Oui, et c'était réciproque. Oui, et ben justement, on peut voir de manière empirique que la question de l'universel, elle est fondamentale dans leur opposition et leur querelle. Elle est fondamentale parce que, à l'Université de Berlin, je rappelle que Savigny a été l'un des premiers en 1810 professeurs de l'Université de Berlin, il y avait les cours des romanistes et les cours de Savigny, et puis il y avait le cours de philosophie du droit. Hein, le cours de philosophie du droit, il était partagé, une année sur l'autre, ça changeait entre Hegel et Edward Gass.
Hegel est arrivé à Berlin en 1818.
Oui.
Effectivement, c'est l'apothéose de sa carrière. Et Savigny y est déjà depuis quelques années.
Il est déjà en 1810 à la fondation, à l'inauguration. Voilà, il fait partie de la première vague de professeurs. Et on voit très bien dans les échanges que, précisément, c'est la possibilité d'une histoire ou d'une philosophie du droit historique universel qui est rejetée par l'école historique du droit de Savigny et de ses compagnons.
Et qui ne l'intéresse pas, en fait. Enfin,
genre, non, qui ne l'intéresse pas. J'ai dit,
n'intéresse pas Hegel ou qui n'intéresse pas Savigny.
Qui n'intéresse pas Savigny. Les Hegeliens, Hegel et Gans, je crois même que dans l'intitulé du cours, il est écrit Histoire universelle.
Oui, oui, oui.
Donc c'est un grand débat, je t'en prie.
Pardon. Mais cette différence pointe très bien la chose. C'est-à-dire que le problème, enfin, alors, la philosophie de l'histoire n'est pas l'histoire, hein, c'est très clair, hein, pour Hegel, c'est pas le même point de vue. Et effectivement, enfin, ce que pointe la philosophie de l'histoire, c'est qu'effectivement, dans ce qui a été, c'est de la raison qui s'effectue, hein, c'est la thèse hegelienne, de telle sorte aussi que, comment dire, de ça, enfin, que ce soit tel ou tel peuple, enfin, ça, dans cette perspective-là, s'intéresser à un seul peuple n'est pas du tout le propos, puisqu'encore une fois, hein, enfin, l'histoire, c'est le lieu véritablement l'esprit aussi accède à ce qui est, c'est-à-dire la liberté. C'est cela l'idée, de telle sorte aussi que, enfin, Olivier Jean-Jean parlait tout à l'heure de la manière dont Savigny reproche l'extériorité à l'appréhension de l'histoire par l'école de Göttingen, et pour favoriser justement l'idée d'un principe, de la mise au jour du principe interne du développement d'un peuple. Mais vous voyez, d'un point de vue hegelien, on a beau même aller chercher le principe interne du développement d'un peuple, qu'il soit interne à ce peuple, ne dit pas du tout qu'il soit pas complètement extérieur à la liberté et à la raison.
Alors je vous propose quand même, si ça ne vous ennuie pas, c'est assez difficile, de laisser un peu de côté ce vocabulaire interne-externe qui nous mènerait très très loin, sauf si vraiment vous insistez, c'est central pour comprendre. J'aimerais peut-être, Olivier Jouan-Jean, que vous nous disiez maintenant ce qu'est le droit pour Savigny et pourquoi l'histoire avance fondamentalement, l'histoire des peuples, on peut la lire particulièrement à travers l'évolution de leurs droits.
Bon, je ne sais pas si je peux répondre à cette question, parce qu'elle est plus que massive, mais peut-être on peut repartir de ce que vient de dire Élodie, puis ça va s'articuler, j'espère, avec la question que vous me posez. La différence, il y a une autre différence qu'on peut dire entre Hegel et Savigny, c'est que chez Savigny, il n'y a pas le travail du négatif.
Voilà. C'est pas dialectique, quoi.
Non. C'est une pure positivité.
Et c'est quoi? C'est l'essence d'un peuple qui se...
Oui.
Qui se continue toujours?
Voilà. Il y a, et ça c'est une formule de Savigny, il y a une nature supérieure du peuple. Une sorte de moi transcendantal qui se déploie dans une histoire continue. Et donc, il y a un fondement implicite, non avoué, mais qu'on peut appeler sans peine métaphysique. Il y a une sorte d'idée platonicienne. De chaque peuple, voilà. Donc, ça a amené un collègue que j'aime beaucoup, un Allemand, je ne vais pas embêter les gens avec son nom, mais pour dire qu'en fond, chez Savigny, cette nature supérieure fait qu'il n'y a pas de véritable histoire. C'est une science anhistorique de l'histoire chez Savigny. Pourquoi? Parce que l'histoire n'est pas le moteur d'une évolution. Ça ne fait pas embrayer quelque chose de foncièrement nouveau, etc. Parce qu'il n'y a pas la négativité. Et donc, lui, Böckenförde, pour ne pas le citer, il voit le penseur de l'histoire, c'est Hegel, c'est pas Savigny.
Alors, l'histoire universelle, en tout cas. Le penseur de l'histoire universelle, c'est Hegel.
Mais,
c'est ça?
Oui, mais l'histoire même particulière de Savigny n'est pas une véritable histoire.
Ouais.
Il n'arrive pas à penser ce que l'histoire fait au peuple, aux événements, etc. Alors, il suit. Ensuite, sur la liberté, juste
oui,
un mot. Oui, il est contre-révolutionnaire, ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un monarchiste. Bon. mais son droit privé, mais en fait, il ne peut pas développer d'un point de vue juridique son argument contre-révolutionnaire, parce que il se fiche largement du droit public. Ça l'intéresse pas. Il a des phrases très vagues, et ça, c'est le fait de toute l'école historique du droit, du moins chez les romanistes. Il n'y a pas de droit public. Il n'y a pas de pensée du droit public. Donc, mais dans le domaine du droit privé, on a pu parler, à mon avis, assez à juste titre, d'un libéralisme de droit privé chez Savigny.
Oui,
dans l'école historique.
À la possession, à la propriété. Il a fait sa thèse là-dessus, voilà. Etc.
Oui. Le droit de la possession. Mm-hmm. Bon. La liberté, oui, quand même, mais pas la liberté politique, ce serait quelque chose de différent. En tout cas, il ne la pense pas. Il lui suffit de dire la révolution, la tabula rasa, la table rase. Non, ça, c'est pas bien. Et c'est pour ça qu'il est contre la codification, parce que je rappelle que la querelle de 1814 que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est la querelle de la codification, voilà, entre Thibault et Savigny. Et Thibault, il serait même plus que Kantien, apparemment, il serait carrément jacobin. Mais il a écrit avant, exactement dans le même sens que Kant, qu'il ne pouvait pas y avoir de science de l'histoire. Et je crois que ça, c'est une des raisons de ce conflit. Mais c'est la querelle de la codification, parce qu'à travers le projet de codification du droit civil, en général, Savigny voit précisément un moment de rupture de cette continuité historique. La loi vient faire table rase de toute cette histoire qui se développe, de cette conscience historique. Elle vient modifier la conscience historique. Et comme il n'y a pas de négativité chez Savigny, la codification, c'est non.
C'est
et Hegel
lui dira. C'est de mettre de l'ordre qui fait violence à la continuité, c'est ça?
Oui, c'est, on coupe le fil de l'histoire. Et c'est ce que lui reproche à Hegel, c'est dénier les capacités d'un grand peuple que de lui refuser la codification et la législation, le pouvoir législatif. Donc voilà. Mais le droit réside dans la conscience d'un peuple. Ça, c'est très obscur. Et il y a trois sources, mais les trois sources du droit chez Savigny sont des modes de révélation de quelque chose qui le précède, et qui relève de cette métaphysique du peuple. C'est la loi, mais de manière très limitée. C'est la coutume, ben, c'est un peu vieux, c'est pas. Et puis la science du droit. Mmh. Et la science du droit, c'est le travail des juristes qui sont des représentants du peuple, c'est les mots de Savigny, pour comprendre, traduire cette conscience populaire. Donc, la science interne, l'histoire interne, c'est une affaire d'interprétation, c'est une science compréhensive, et on est au moment 1810, 1820, peu importe, où la question de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'art de l'interprétation, est en train de bouger fondamentalement, avec un auteur comme Schleiermacher qui propose une herméneutique générale, avec la transformation de la philologie classique traditionnelle par Friedrich August Wolff, qui a renouvelé complètement les études sur Homère, et qui sont des collègues de Savigny dès 1810 à Berlin, et puis Savigny, qui est un rénovateur de l'herméneutique juridique, c'est-à-dire l'art, je dis l'art, pas la science, mais l'art de l'interprétation.
Élodie Georgievic.
Oui, ça, non, en écoutant Olivier Jean-Jean, je me disais aussi, pour peut-être revenir à des choses un peu plus moins savantes et plus terre à terre, que il me semble que cette question du débat Hegel-Savigny et sur la question du rapport entre droit et histoire permet aussi de peut-être tordre le cou à un préjugé ancré qui tendrait à faire croire, c'est sans doute vrai depuis Léo Strauss, que Hegel est historiciste. C'est pas tout à fait vrai.
Non, je suis désolée. Il y a trop de mots, trop de mots, je l'enlève.
C'est compliqué. Je comprends.
Je vous en supplie.
Alors,
essayez de ne pas ajouter du débat dans le débat.
En répondant à la question que vous posez, alors, sur qu'est-ce que le droit pour Hegel?
Oui.
Voilà.
Qu'est-ce que le droit pour Savigny?
Mais justement, je pense que ça permet de bien pointer la différence. Pour Hegel, le droit, c'est toute configuration que peut prendre la liberté. Enfin, vous voyez, la définition du droit engage immédiatement l'idée de liberté.
Dans le développement, je pense que ça, c'est le plus important et le plus fort à comprendre. Parce que la question de l'historicité, ça nous mène sur des débats, sur les débats, des débats.
Parce qu'on va tout de même raccrocher à cette question de l'histoire, puisque c'est... Alors, une fois qu'on a dit cela, enfin, vous voyez, le droit, finalement, ce sont les configurations objectives que peut prendre la liberté, et elle en prend la propriété, l'État, les institutions, tout ça, ce sont des, pour Hegel, des configurations de la volonté libre. Vous voyez, on pourrait penser, si on dit les choses comme ça, que c'est effectivement tout à fait détaché de ce qui est, et que c'est une définition du droit, finalement, qui prendrait peu en compte l'histoire. Sauf que pour Hegel, c'est tout à fait faux, puisque cette idée du, enfin, ce concept de droit, oui, il advient, et c'est le concept que j'ai omis de dire jusqu'à présent, mais qui est important, et c'est l'idée du processuel. Il advient aussi dans le temps. Il y a une.
Alors, quelle est la différence alors avec Savigny, où c'est aussi processuel?
Parce que chez Savigny, ce n'est pas le processus d'avènement de la liberté. C'est ça la différence.
Le développement d'une singularité, d'un
folk, peuple particulier, voilà, et en plus d'un peuple particulier qui est voilà. Alors que pour Hegel, enfin, oui, vous voyez, ce moment de développement de la liberté, il passe par des peuples d'ailleurs distincts au fur et à mesure de l'histoire. Il n'y a pas de voilà, il y a pas un peuple qui serait plus dévolu. Voilà.
Alors sur la continuité dans l'histoire des peuples, là, il y a des choses que je ne comprends pas très bien chez Savigny. C'est un spécialiste du droit romain, il insiste, parce qu'il sait qu'il y a eu un saint empire romain germanique, il insiste sur l'importance de la source romaine pour les peuples allemands. Ça, j'ai compris. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a quand même un peuple allemand, une région allemande très importante qui n'a jamais fait partie de le Saint-Empire romain germanique, qui s'appelle la Prusse, où il va aller lui-même, puisqu'il sera à Berlin, ministre, Berlin, capitale de la Prusse, ministre de la Justice en 1840.
De la législation.
De la législation, pardonnez-moi. Donc, il considère bel et bien que c'est l'essence du folk, du peuple allemand, aussi la Prusse. Mais ce qu'on voit bien, enfin, les chevaliers teutoniques qui ont fondé la Prusse, ça n'a quand même rien à voir avec le droit romain. Comment fait-il des liens de continuité entre le droit romain, le Saint-Empire romain germanique et cette région si importante qui, au XIXe siècle, va faire l'alliance des peuples germaniques autour d'elle, à savoir la Prusse?
Oui, c'est pas toute la Prusse, c'est la Prusse orientale.
Oui, Prusse orientale.
Bon. Eh bien, on le lui a reproché. Du moins, on l'a reproché à son principal disciple, qui était Georg Friedrich Purta, peu importe. Parce que Savigny, c'est la figure tutélaire, on n'y touche pas, même si on n'est pas d'accord. Donc on prend un de ses disciples pour taper sur cette affaire-là. On va le lui reprocher à la veille de la grande révolution nationale allemande de 1848-49. Et c'est la naissance d'une autre branche de l'école historique, à savoir l'école dite germaniste. Donc précisément, qui dit... mais. Pourquoi le droit romain serait-il le contenu de cette conscience populaire allemande? Elle est allemande. C'est pas seulement l'affaire de la Prusse. Ils sont allemands. Alors comment ça se fait qu'on nous donne, on nous sert le droit romain? Bon. Et là, ça engage une autre querelle qui va culminer vers 1830, donc à la veille, vraiment à la veille de la Révolution, entre les germanistes et les romanistes. Les germanistes disant, bon, vous avez, vous prenez le droit romain comme le paradigme même, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la réception du droit romain en Allemagne. C'est un long processus du XIIIe au XVIe siècle. Mais ça, cette réception du droit romain, c'est le fait, c'est l'action des juridictions impériales, des juridictions de l'Empire. Et là, siègent de grands juristes formés au droit romain. Donc, ce qu'ils ont reçu, et ce qu'ils font traduire dans leur jurisprudence, c'est le droit romain. Mais, disent les germanistes, oui, mais c'est une réception par l'élite judiciaire, donc des juristes.
Oui.
Mais est-ce que c'est le droit du peuple? Donc, la grande bataille, ça va être l'opposition entre droit du peuple et droit des juristes. Et les germanistes, qui seront... l'une des chevilles ouvrières de la Révolution
donc
de 48.
Il y a un problème quand même, c'est ça.
Ah oui,
les gens
ont essayé
de faire les
c'est la querelle de la réception du droit romain.
Le droit romain, c'est important, mais ça n'a pas concerné tous les peuples allemands.
Non, et il s'appliquait en Allemagne à titre subsidiaire.
Alors c'est quoi l'essence de l'Allemagne et des peuples allemands pour Savigny?
Ben ça, s'il l'avait écrit, je vous le dirais.
Non, c'est
un totem métaphysique, c'est comme ça je dirais. Il ne dit jamais ça. Il ne dit jamais ce que c'est que cette essence.
Mais il y croit.
Voilà.
Il y croit scientifiquement.
Oui, parce que ça lui permet de faire cette histoire, alors je dis interne, mais cette histoire d'une conscience oui. du peuple, et de la considérer comme un système. Et pour faire de la science, eh ben, il faut systématiser mes objets. Enfin, ou,
et vous pensez qu'il a créé propos. Une science historique véritable?
Non. Non, je défends pas Savigny.
C'est une promesse non tenue.
Je ne défends pas Savigny. Bon, il a été un immense juriste. Ça, c'est clair. Son histoire du droit romain au Moyen-Âge, ça reste une référence. Et il a rebâti complètement les cartes dans cette histoire du droit romain. Et son importance, à mon avis, son importance, pas son discours, mais son importance, c'est d'avoir précisément, et pour longtemps, et au moins jusque Max Weber, etc., posé le principe que les sciences, si je modernise le propos, les sciences humaines et sociales, leur méthode est particulière, ne se calque pas sur les sciences de la nature.
C'est un autre sujet.
Oui, mais je ne vais pas le déflorer.
C'est la transition.
Voilà, absolument. Exactement.
Et alors, de l'autre côté, si ça ne vous ennuie pas, parce qu'il nous reste une seule minute, Élodie Georgievic, est-ce que Hegel, dans le souci de faire... le souci hors de lui, qui est de créer une science historique, Hegel, justement, n'est pas complètement décalé. C'est-à-dire que, précisément, il n'a jamais eu cet objectif et il se retrouve dans un coin par rapport à la montée d'une envie de faire de la science de l'histoire.
Absolument. Alors là, vous avez entièrement raison. Hegel n'a le point de vue de la philosophie de l'histoire n'est pas le même que celui de la science positive historique. Comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas. Hegel lisait les historiens de son temps. Il a lu Gibbon. Enfin voilà. Il se tient au fait des connaissances historiques de son temps. Mais le point de vue n'est pas le même. Et là, je crois que ça touche vraiment au plan du dire philosophique lui-même pour Hegel et le fond du débat avec Savigny, c'est ça. Ce que reproche en dernière instance Hegel à Savigny, c'est de refuser le point de vue de la philosophie, qui est un rapport, dit Hegel, qui est une position relative à ce qui est très très particulière et qui est unique et qui est pour lui le véritable point de vue rationnel, qui ne se confond pas avec la rationalité strictement positive.
Si c'était chacun dans son coin, il n'y aurait pas d'hostilité si grande. Ils sentent bien que l'un marche sur l'autre.
Il y a débat. Mais alors précisément, ce que dit Hegel, c'est que normalement, il ne devrait pas y avoir de conflit. Il y en a un parce que les positivistes, pour le dire très vite,
ceux qui veulent faire de la science,
refusent le point de vue de la philosophie. Enfin, on nie l'existence, nie le terrain du rationnel, oui. dit Hegel. Et là, c'est l'enjeu central, et parce qu'il y a aussi des enjeux quant à la pratique là, et pour le coup, quant à la politique, qui sont, je pense, majeurs. Sur ces deux points de vue.
The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact, some is good,
History Repeating, c'est une chanson de 1998 du groupe britannique Propeller Heads, groupe composé de deux DJ producteurs de musique électronique. Merci beaucoup Elodie Georgievic et Olivier Jouangean. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse à la notion de respect. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi les humains exigent-ils du respect ? Certains faits de la vie sociale quotidienne méritent plus d'attention qu'ils n'en ont d'ordinaire. Ainsi, par exemple, les faits de politesse, ce que le philosophe Alain, au début du XXe siècle, voyait comme quelque chose de fondamental entre les humains et qu'il appelait de ce mot un peu ancien des cérémonies, des cérémoniaux. Après vous, je n'en ferai rien, passez, veuillez donc passer. Et puis avec ce côté un peu comique, au début du XIXe siècle par exemple, cette politesse un peu guindée de soulever son chapeau, de faire un geste de baisement, de laisser passer quelqu'un le premier par une porte et au point que l'autre veut en faire autant et que finalement personne ne peut s'avancer. C'est au fond ce que Alain appelait les cérémonies, renvoie à la question la plus profonde qui soit peut-être dans la philosophie morale, qui est la question du respect. Que faut-il donc appeler respect et pourquoi les humains se demandent-ils les uns aux autres, d'une manière paradoxale sans doute, quelque chose de fondamental à travers cette notion du respect? Il me semble qu'on peut appeler respect la même manifestation par un être humain que quelque chose s'impose à lui, ou à elle bien sûr, que quelque chose s'impose à lui au point d'être supérieur à lui, au point que nous puissions lui sacrifier au moins quelque chose comme notre intérêt, voire notre personne même. Ainsi, quand je dis « après vous », c'est que je fais passer l'autre avant moi. Je peux même, d'une certaine manière, respecter l'autre au point de sacrifier ma propre vie. Le respect, c'est la considération pour quelque chose que nous jugeons supérieur à nous, au point de le manifester par un comportement qui peut être au détriment de notre propre intérêt. C'est donc la reconnaissance d'une valeur, cela peut être une valeur abstraite, respecter un principe, cela peut être un principe social, respecter une autorité, un pouvoir qui s'impose à nous, la cérémonie, la politesse, la courbette, la révérence, ce sont les manifestations d'un respect pour quelque chose qui s'impose à nous par sa force, comme le disait Blaise Pascal dans Les Pensées. J'ai toujours un respect pour l'épée qui se pose sur ma tempe. Je suis bien obligé, au fond, de la respecter et c'est vrai qu'elle s'impose à moi. Mais le respect pour l'autre être humain en général, à quoi est-il dû de telle sorte que les êtres humains s'exigent mutuellement ce respect paradoxal ? Après toi, après vous, je n'en ferai rien. C'est ce que Kant appelait le respect de la dignité humaine comme telle. Je la place dans l'autre comme supérieure à moi-même. Kant disait le respect, c'est de traiter l'autre comme une fin et pas comme un moyen. Et surtout, le respect, c'est la manifestation extérieure et même affective par des sentiments que l'autre est supérieur à moi-même, que je le traite comme une fin, comme disait Kant, comme un but, comme une valeur en soi. C'est vous que je respecte, vous et non pas un grand principe supérieur, vous et non pas une autorité sociale. Et peut-être devons-nous nous demander les uns aux autres cette forme absolue de respect.
Merci beaucoup Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kera avec à la technique Mineta Djawara. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Armance Bourquin, Victoire Mellet, Chaïma Giboire, Anna Fulpin, Corinne Amar et Nassim El-Kabli, car il y a eu plusieurs équipes différentes pour travailler ce sujet très intéressant. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.